Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Près de 150 cardinaux, un millier d'évêques, 6000 prêtres, 200 diacres pour la double canonisation du 27 avril. De nombreuses délégations officielles assisteront à la célébration sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. 1700 cars et 58 vols charter sont organisés depuis la Pologne. C'est encore à cet événement que sera consacré l'essentiel de ce magazine. Nous verrons également que l'emballement médiatique autour des appels téléphoniques du pape François suscite une certaine irritation au Vatican et nous ne manquerons pas d'évoquer le 8e centenaire du baptême de Saint-Louis. Jour J, mois 3, la double canonisation du 27 avril approche, un grand jour pour l'Église dans le monde entier. Tout au long des journées qui nous séparent de cette date, nous vous proposons de réécouter la voix de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Aujourd'hui, vous allez entendre un extrait de la célèbre homélie prononcée par Jean-Paul II en 1997 sur l'hippodrome de Longchamp à Paris dans le cadre des 12e journées mondiales de la jeunesse. Devant plus d'un million de personnes, Jean-Paul II avait invité les jeunes à partir sur les routes du monde et à être fidèles à leur baptême.
Chers jeunes, votre chemin ne s'arrête pas ici. Le temps ne s'arrête pas aujourd'hui. Partez sur la route du monde, sur la route de l'humanité, en demeurant unis dans l'Église du Christ. Continuez de contempler la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, et vous serez éclairés pour bâtir la civilisation de l'amour, pour aider l'homme à voir le monde transfiguré par la sagesse et l'amour éternel. Pardonnez et réconciliez, soyez fidèles à votre baptême, témoignez de l'Évangile, membres de l'Église, actifs et responsables, soyez disciples et témoins du Christ qui révèle le Père, demeurez dans l'unité de l'Esprit qui donne la vie. Amen.
C'était un extrait de l'homélie prononcée par Jean-Paul II en 1997 sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Parmi les prêtres ordonnés en France cette année ou parmi les séminaristes toujours en formation, nombreux sont ceux qui se revendiquent encore de la génération Jean-Paul II. Marqués par la figure du pape polonais, ces futurs prêtres trouvent encore en lui une source d'inspiration et un soutien pour leur vocation et leur ministère. Au début du mois, à l'occasion de leur représentation de Frères de notre Dieu, une pièce de théâtre écrite en 1950 par celui qui n'était alors que l'abbé Karol Wojtyla, Cyprien Viette a rencontré les étudiants du séminaire français de Rome. Ils témoignent de leur affection toujours vive pour Jean-Paul II.
Viens parler, qu'il s'ajoute ce que c'est que de claquer les dents.
Que veux-tu faire ?
C'est par l'expérience communautaire d'une pièce de théâtre de Karol Wojtyła que les étudiants du séminaire français de Rome ont célébré, par anticipation, début avril, la canonisation de Jean-Paul II. Frère de notre Dieu raconte l'histoire vraie d'Adam Chmielowski, un peintre polonais de la fin du XIXe siècle, révolté par la misère dans une Varsovie alors sous le joug du tsar de Russie. Tenté par la révolte violente, il choisira finalement la voie de l'amour de Dieu en s'engageant comme tertiaire franciscain sous le nom de frère Albert. Interprète du rôle principal, Maxime, diacre et séminariste du diocèse de Paris, a vu dans cette expérience l'occasion d'approfondir sa connaissance de Jean-Paul II.
La joie principale, c'est que voilà, l'année de la canonisation de Jean-Paul II, de jouer un rôle d'une pièce qu'il a écrite et où lui surtout a mis beaucoup de lui-même, beaucoup plus que ce que moi je pourrais y mettre. Là, il y a quelque chose de formidable parce qu'on est dans une intimité avec lui, de ce que lui a voulu écrire, faire passer, de son propre parcours d'homme de lettres et puis de théâtre qui, à un moment, a choisi de devenir prêtre. Et donc, c'est une vraie intimité, une vraie joie de ce point de vue-là avec notre futur saint.
Et toute la finesse de Karol Wojtyła transparaît dans cette pièce écrite alors que la Pologne vient de basculer sous régime stalinien. Pour Maxime, l'abbé Wojtyła avait suffisamment compris le communisme pour pouvoir le critiquer de façon objective.
Alors que la révolution a déjà eu lieu en Pologne, enfin en tout cas que la Pologne est déjà passée au communisme, à la fin de cette pièce, il dit « cette colère durera, parce qu'elle est juste. Et donc il est capable de voir, dans un contexte extrêmement difficile pour l'Église, de voir ce qu'il y a de positif et de juste dans ce qui pourtant, après, était le communisme qu'il a combattu toute sa vie. Et donc cette capacité à voir dans l'autre la semence de vérité, et du coup, on n'entre pas dans un jugement, on n'est pas dans une pièce simpliste du tout, et on voit la capacité qu'il avait à regarder une situation historique dans sa complexité, et en même temps, il dit, si vraiment on veut construire quelque chose dans ce monde, on ne peut plus avoir la colère, ici, il nous faut l'amour. Et donc, il joue dans cette pièce sur ces deux réalités de la colère et de l'amour, et il montre bien que la solution chrétienne, c'est cette solution de l'amour, et c'est ça qui remporte vraiment la victoire, surtout de la paix, à la fin de la pièce, où le personnage dit « j'ai choisi une plus grande liberté que celle de la colère, celle de l'amour ».
Neuf ans après son décès, les séminaristes n'ont donc pas oublié Jean-Paul II, l'homme en blanc qu'ils apercevaient sur la télé de leurs parents ou grands-parents dans leur enfance, mais dont ils découvrent maintenant la fécondité intellectuelle et spirituelle. Stanislas, du diocèse de Rouen, apprécie notamment ses encycliques.
On est attaché à Jean-Paul II parce que nous avons entendu nos parents nous en parler, parce que nous avons nous-mêmes pu participer aux événements en France, soit à Reims, soit encore au JMJ de Paris. Et puis en plus, au fur et à mesure de notre formation au séminaire, on se rend compte aussi de tout l'apport fondamental qu'il nous a apporté par son enseignement, soit avec Fides et Ratio, qui nous aide vraiment nous-mêmes à lier toujours la foi et la raison, Veritatis Splendor sur la vie morale, ou encore Redemptor Hominis, qui précisément vient nous rappeler que le Christ non seulement nous révèle Dieu, mais nous révèle aussi l'homme. Et finalement, en redécouvrant maintenant, avec un peu plus de distance, ces textes, eh bien, on est quand même saisi par la beauté de ce qu'il nous propose, à savoir la beauté de la vocation humaine.
Et pour Cédric, du diocèse de Nanterre, c'est aussi sur son héritage missionnaire et pastoral que l'Église doit maintenant s'appuyer.
Toute la figure de Jean-Paul II est touchante. Et c'est vrai que lui, comme jeune prêtre, et quand on regarde un peu sa vie, il était assez libre, il était assez novateur, assez entreprenant. Et beaucoup de ses actes pastoraux étaient un peu originaux pour leur époque. Et maintenant, sont tout à fait communs. Du coup, on peut s'inspirer de lui pour une espèce de liberté d'action, annoncer le Christ avec zèle, là où on est envoyé, avec les outils dont on dispose, et sans complexe.
Les séminaristes qui seront ordonnés dans les années à venir comptent bien sur l'intercession de Saint Jean-Paul II pour trouver leur joie dans le sacerdoce, et déjà pour placer leur chemin de formation et de discernement sous la protection de la Vierge Marie, ils aiment chanter le Totus Tuus, la prière favorite du pape polonais.
Reportage au séminaire français de Rome, signé Cyprien Viette. La grande fête de la foi que représente la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II commencera le samedi soir. Une nuit blanche de prière aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans plus d'une dizaine d'églises du centre de Rome. Les pèlerins pourront y prier, se confesser et se rassembler selon leur langue. Dès 9h dimanche matin sur la place Saint-Pierre, les fidèles seront invités à réciter le chapelet de la Divine Miséricorde, entrecoupé de lectures des textes des deux futurs saints. C'est à 10h que débutera la procession présidée par le pape François jusqu'au parvis de la basilique Saint-Pierre, accompagné de la litanie des saints. Le rite de canonisation aura lieu au tout début de la cérémonie. Le préfet de la congrégation pour la cause des saints demandera par 3 fois au pape d'inscrire Jean XXIII et Jean-Paul II sur le catalogue des saints. Les portraits géants des deux nouveaux saints seront exposés sur la façade de la basilique Saint-Pierre. À l'issue du rite, les reliquaires des deux papes, identiques, seront portés et déposés à côté de l'autel. 5 concélébrants seront présents à l'autel, dont les archevêques de Bergame et de Cracovie, les diocèses d'origine des deux nouveaux saints. 93 pays seront représentés par 24 chefs d'État, dont le roi et la reine d'Espagne, le président de la République italienne, et par 35 chefs de gouvernement, dont le premier ministre français et le président du conseil italien, ainsi que des représentants de plusieurs religions orthodoxes, anglicans, juifs et musulmans. Le pape François les saluera à l'issue de la messe sur le parvis. La France sera donc représentée par le Premier ministre Manuel Valls, une présence qui a suscité de nombreux commentaires et réactions, et une certaine surprise aussi. Comme secrétaire du Parti socialiste en 2011, François Hollande avait en effet considéré la présence du Premier ministre François Fillon à la béatification de Jean-Paul II comme particulièrement choquante. Marie Duhamel.
À la demande de Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls avait assisté en octobre 2012 au Vatican à la canonisation du jésuite français Jacques Berthieu. Il était alors ministre de l'Intérieur en charge des cultes et c'est à ce titre qu'il avait également accompagné le président de la République François Hollande lors de sa première visite au Vatican le 24 janvier dernier. En novembre 2007, alors maire d'Évry, malgré des réticences au sein du conseil municipal, Manuel Valls avait décidé de baptiser le petit square situé face à la cathédrale de la Résurrection du nom de Jean-Paul II pour insuffler à ce lieu un esprit et des valeurs. Il avait alors fait l'éloge du pape polonais qui avait prononcé un discours dans cette cathédrale en 1997. Il avait constaté une continuité et un dialogue permanent entre les valeurs universelles de l'Église et celles émanant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La laïcité n'implique pas la négation du phénomène religieux, avait-il ajouté. Le religieux a structuré nos sociétés, il en est une des racines. Le rejeter, l'oublier, c'est se nier soi-même. Après des mois de tensions autour des questions de société, les observateurs politiques voient dans ce déplacement de Manuel Valls à Rome un geste d'apaisement à l'égard des catholiques de France, qui restent toutefois vigilants. Certains d'entre eux n'hésitent pas à parler avec amertume de calculs politiques.
L'ancien Premier ministre français François Fillon et Bernadette Chirac seront également présents à titre privé. Rome s'apprête donc à recevoir jusqu'à 1 million de visiteurs, mais ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pourront suivre l'événement en temps réel sur les réseaux sociaux. Des étudiants romains de l'université Lumsa ont travaillé pendant 2 mois sur un plan de communication encadré par un prêtre de paroisse à Rome. Jean-Baptiste Cocagne est allé visiter le résultat de leur travail.
Des sœurs qui se déhanchent dans les rues de Rome, un prêtre à moto ou encore des jeunes dansant avec des cartons portant le mot-clé « Deux papes saints ». Voilà la dernière trouvaille du projet twopopsaints.org. Reprenant le principe de la vidéo Happy de Pharrell Williams qui a fait le tour du monde, une vingtaine d'étudiants romains en communication veulent faire le buzz en vue des canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII. Durant 2 mois, ils ont planché sur un plan de communication sur un maximum de réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube ou encore Instagram. Ils seront la voix officielle du Vatican pour couvrir l'événement en temps réel et en plusieurs langues. Alors forcément, cela implique une certaine responsabilité. Anna Maria en charge des vignettes Beatstrip.
On va vivre l'événement sans aucun doute avec beaucoup de stress. Le monde entier suit notre projet, nos pages. Pour nous, c'est un moment de grande émotion. C'est comme si on était dans un mixeur géant en faisant partie de cette belle aventure. Le plus beau dans cette expérience professionnelle, c'est ce que ça nous laissera sur le plan humain et spirituel. Par exemple, nous publions chaque soir une prière et je découvre tant de belles prières que je ne connaissais pas.
Chaque jour, un thème est choisi par les jeunes pour dresser un portrait croisé de Jean XXIII et Jean-Paul II, comme la paix, la vocation ou le dialogue interreligieux, une préparation qui demande un important travail de documentation en amont. C'est d'ailleurs en partant du constat que les 15-30 ans ne connaissent pas bien ces deux papes que le père Stefano Cascio a proposé le projet à l'université romaine Lumsa, une façon selon lui de répondre au message d'évangélisation de ces deux souverains pontifes.
Jean-Paul II et Jean XXIII étaient très populaires, mais ils étaient aussi de grands communicateurs. Jean XXIII a été le premier à utiliser la télévision pour une sortie, par exemple quand il est allé à l'hôpital Bambin Gesù. Jean-Paul II était un ancien acteur, il savait absolument bien utiliser l'image. Donc je pense qu'il bénisse du ciel cette stratégie de communication.
Et pour retrouver toutes ces initiatives, une seule adresse, rendez-vous sur le site twopopsaints.org.
Un reportage signé Jean-Baptiste Cocagne. Si vous ne venez pas à Rome, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette double canonisation et la messe en direct commentée en français sur notre site internet radiovaticana.va. Si vous venez à Rome, je vous signale que ce commentaire en français de la messe du 27 avril est également diffusé sur la bande FM sur la fréquence 103,8 MHz. Équipez-vous donc d'une petite radio et d'oreillettes pour ne rien manquer de cette célébration. « 25 avril 1214, c'est le jour de la naissance et du baptême à Poissy, près de Versailles, de celui qui deviendra roi de France sous le nom de Louis IX et qui sera canonisé à la fin du XIIIe siècle. 800 ans après, le diocèse de Versailles se souvient et en tire des enseignements pour aujourd'hui. Une année Saint-Louis a ainsi été proclamée pour rappeler aux chrétiens que le baptême est à vivre. Saint-Louis a laissé la grâce de son baptême se développer tout au long de sa vie, dans les conditions précises de son époque, certes différentes, mais pas moins facile que la nôtre. Olivier Bonnel.
Si l'évêque de Versailles tient à proposer le modèle de Saint-Louis à ses fidèles, c'est parce que son baptême n'est pas resté un acte sans suite. Saint-Louis, souligne Monseigneur Aumônier, a cherché à vivre en chrétien, à assumer son devoir de roi en chrétien. Il l'a fait compte tenu de son époque, parfois en s'opposant aussi à la culture ambiante. Chef d'État à une époque où le pouvoir était concentré en un seul homme, Louis IX n'a pas échappé aux difficultés inhérentes à l'art de la politique, susciter l'adhésion mais entendre les critiques, favoriser le consensus mais savoir dire non, vouloir la paix mais savoir faire la guerre. Le roi saura même s'opposer respectueusement mais fermement au pape lorsque ce dernier empiétera sur le pouvoir royal. Le roi Louis assistait à deux messes par jour, une première pour communier, la suivante pour rendre grâce. Il récitait la liturgie des heures, portait un cilice, se confessait souvent et se rendait régulièrement à l'abbaye de Royaumont. Cependant, la sainteté n'est pas la perfection, relève encore l'évêque de Versailles. Saint-Louis a fait des erreurs et ses actes de gouvernement ne sont pas infaillibles. Ce ne sont pas les décisions d'un homme qui sont canonisées, mais bien la personne elle-même.
Une réflexion actuelle, alors que malgré l'adhésion écrasante que Jean-Paul II recueille dans Le Monde, des voix s'élèvent pour critiquer son attitude et ses décisions concernant notamment la théologie de la libération, la lutte contre la pédophilie dans l'Église, la centralisation de l'Église, des nominations malheureuses et le pouvoir personnel. Dans le reste de l'actualité, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a fait une mise au point au sujet des appels téléphoniques du pape François. Dans le cadre de ses rapports personnels et pastoraux, le Saint-Père a téléphoné à plusieurs reprises. Étant donné que ces appels ne font absolument pas partie des activités publiques du pape, aucune information ou commentaire n'est à attendre du service de presse du Saint-Siège. La crédibilité des détails qui ont été publiés et leur retentissement médiatique ne peut donc être confirmée. Ces informations sont source de désinformation et de confusion. Il faut donc éviter, affirmer le père Lombardi, d'en tirer des conséquences concernant l'enseignement de l'Église. Dans une interview à une chaîne de télévision de Buenos Aires, une femme argentine divorcée remariée a affirmé qu'elle avait écrit au pape François et que ce dernier lui avait téléphoné pour lui dire qu'elle pouvait communier sans problème. Selon le récit de cette femme, le souverain pontife aurait même regretté que certains prêtres soient plus papistes que le pape. Le pape François a l'habitude d'écrire ou de décrocher son téléphone pour parler à des personnes qui se sont adressés à lui pour exposer leur situation personnelle difficile. Ces communications privées sont parfois révélées par ses interlocuteurs ou leurs proches, puis mal comprises ou déformées par eux ou par les médias. Le Vatican a adressé ses vœux aux bouddhistes à l'occasion de la fête du Vésak. Dans un message du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux centré sur le thème de la fraternité fondement de la paix, il préconise la reconnaissance de valeurs universelles. Le texte constate que nous vivons dans un monde trop souvent déchiré par l'oppression, le tribalisme, les rivalités ethniques, le fondamentalisme religieux et la violence. Un monde où l'autre est considéré et traité comme un être inférieur, quelqu'un à craindre et si possible à éliminer. Cependant, nous sommes appelés à respecter et à défendre notre humanité commune dans la diversité socio-économique, politique et religieuse, à dénoncer ouvertement tous les maux sociaux qui nuisent à la fraternité, à être les réconciliateurs qui brisent les murs de division dans la société. Pour bâtir un monde fraternel, il est essentiel que les croyants unissent leurs forces et qu'ils trouvent le courage de construire encore la fraternité. Selon Église d'Asie, les attaques antichrétiennes ont repris dans l'archidiocèse de Dhaka. La maison d'une famille chrétienne a été incendiée la semaine dernière dans un village. Il y a 6 ans, une fillette membre de cette famille avait été violée et tuée par un groupe de jeunes islamistes. En juin 2013, dans ce même village, l'église avait été attaquée et ses prêtres frappés avec violence par un groupe non identifié, proférant des menaces à l'encontre des chrétiens de la région. La plupart des viols qui sont perpétrés actuellement au Bangladesh concernent des fillettes ou des femmes appartenant à une minorité chrétienne, hindoue ou aborigène. Seuls 2% des violeurs font l'objet d'une arrestation. Les chrétiens essentiellement catholiques sont très minoritaires au Bangladesh, où ils ne représentent que quelques 2% de la population face à une communauté musulmane majoritaire à près de 80%. Des attaques, des vols et actes de vandalisme de toutes sortes se produisent régulièrement dans l'archidiocèse de Dhaka. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, mais je vous invite, sur tous ces jours-ci, à nous rejoindre sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.